Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Jeudi 10 mars, bonne journée et bienvenue au 98.5 avec ce matin un ciel dégagé autour de moins 1. On prévoit une très belle journée, 3 degrés. Demain, vendredi, essentiellement, espèce de mélange de nuages, un peu de soleil et ça va se gâter en fin de journée, surtout en soirée. Alors que la neige va commencer à tomber vraiment. Et au total, là, on parle à peu près 5, 6, 7, 8 centimètres pour vendredi soir et dans la nuit. Et puis samedi, ben, c'est une vraie tempête là pour Montréal. 10, 15 centimètres s'ajoutent avec vent, poudrerie. Et finalement, dimanche, on aura un dégagement du temps ensoleillé et moins 5 degrés. Le point sur la guerre en Ukraine, on entre dans la troisième semaine. Et alors que les bombardements continuent, à Mariupol, je pense que l'image la plus forte, le geste le plus brutal jamais posé par les Russes, c'est le bombardement de cet hôpital pédiatrique, un hôpital pour enfants. Le bilan fait état d'au moins 3 morts, dont un enfant. Plusieurs personnes ont été blessées. J'en parle ce matin avec Tetiana Ogarkova, qui on parle tous les jours, qui est, elle, dans l'ouest de l'Ukraine. Tetiana, bonjour.
Bonjour.
Alors évidemment, le bombardement, c'est quelque chose d'horrible, ce qui incarne l'horreur d'une guerre et je dirais un geste inqualifiable de la part des Russes.
Oui, tout à fait. On était tous stupéfaits et on a resté sans parole après avoir vu des images de l'hôpital pédiatrique, mais aussi d'une maternité. En fait, il y avait deux immeubles, donc il y avait une maternité et un hôpital pédiatrique qui ont été bombardés. Heureusement, il y avait pas de morts, puisque le service était effectué dans les sous-sols. Après avoir expliqué les décombres, on a découvert qu'il y avait 17 personnes blessées. C'est un acte horrible qui montre tout le vrai visage de la Russie contemporaine, de leur armée. Aujourd'hui, nous avons reçu la confirmation du ministre des Affaires étrangères Lavrov, qui avait dit que c'était un acte réfléchi, qu'il pensait qu'il y avait la base de secteur droit, comme ils disent, voilà, des groupes ultranationalistes dans cet hôpital, mais les images contredisent les paroles du ministre des Affaires étrangères Lavrov, puisque on a bien vu des images des femmes enceintes et de corps médical qui étaient présents dans les lieux. Ce geste barbare nous a laissé dans la colère sans nom, en fait, toute la population de l'Ukraine, et y compris la communauté internationale. On reçoit beaucoup d'appels, mais le sort de la ville de Mariupol reste la préoccupation majeure pour l'Ukraine, parce que la ville ressemble à un Stalingrad pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une ville assiégée. Déjà, les chiffres de morts rapportés s'élèvent à 1200, 1300 personnes déjà décédées. On a vu des images de tombes collectives qui sont en train de se faire au centre même de la ville de Mariupol. On a la connexion perturbée avec la ville, mais selon l'information qu'on reçoit, les habitants de Mariupol souffrent de l'absence de l'eau, de nourriture, d'électricité, de l'eau chaude, de chauffage, de tout en fait. C'est un acte de génocide délibéré, conscient de la part de la Fédération de la Russie. Ils ont besoin coûte que coûte de Mariupol, puisque la prise de Mariupol leur permettrait d'avoir un accès terrestre vers Crimée. L'armée ukrainienne fait ce que peut être fait, mais l'armée russe n'autorise même pas la sortie des civils de cette ville. Donc il faut agir dans l'urgence, parce que c'est une grande ville de 400 000 habitants.
Maintenant, des négociations se sont engagées, donc une autre ronde pour parler entre les ministres des Affaires étrangères de Russie, d'Ukraine, en Turquie. Ça a été de courte durée et ça n'a rien donné encore une fois ce matin.
C'est ça, justement, on vient de recevoir les informations. Voilà, de notre ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, qui avait dit que même pendant les négociations, la Russie continue son agression, ça n'a rien donné. Nos demandes sont très claires et très simples, donc le cessez-le-feu, le retrait de toute troupe russe du territoire ukrainien souverain. Mais bien sûr que les Russes continuent à faire des demandes irréalisables, agressives. On discute ici sur l'utilité de la voie diplomatique. Bien sûr, les diplomates sont là pour parler, donc ils peuvent parler justement. Mais à ce moment-là, il est clair, il est très clair pour les Ukrainiens que on a déjà payé un prix énormissime, vraiment énorme en termes de vie humaine. Pour emporter dans cette guerre, on ne va pas céder un centimètre. On compte beaucoup sur le soutien de nos partenaires occidentaux. Ça concerne les armements militaires, ça concerne aussi l'aide dans le ciel. On a déjà fait beaucoup de sacrifices, on ne va pas s'arrêter là. On va persévérer, on va résister jusqu'à la victoire totale qui consisterait dans le cessez-le-feu, le retrait des troupes russes, la démilitarisation de la Russie. Il faut cesser cette horreur qui se passe actuellement, dans les minutes où je vous parle, au centre même, au cœur de l'Europe.
Et en plus, ajoutons que les bombardements continuent. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de période plus tranquille. Vous avez parlé de Mariupol, mais il y a d'autres villes, évidemment, aussi, qui font l'objet de ces bombardements.
Oui, ce matin, il y avait encore des bombardements à l'est qui ont encore fait des victimes civiles. On reçoit des renseignements britanniques qui disent que l'activité de l'armée russe a un tout petit peu diminué dans l'air, mais c'est surtout grâce à la défense ukrainienne qui se renforce. On voit tous les jours, même hier encore, il y avait des essais de frappe de Kiev, mais les missiles ont été détruits par le système de la défense aérienne ukrainienne. Donc, c'est-à-dire que cette activité dans l'air de l'armée russe, elle continue. Ce sont des actes terroristes puisqu'ils frappent pour la plupart les objets civils. En fait, c'est l'objectif est toujours le même. C'est pour semer la terreur, c'est pour soumettre, pour faire céder le gouvernement ukrainien. Mais on a passé tous les points de non-retour. Après, voilà, le bombardement à Mariupol hier, on est passé de l'autre côté de l'impossible, en fait. Donc, l'OPI qui bombarde les maternités, les bébés, les nouveau-nés, c'est un pays qui doit, c'est un régime qui doit disparaître. Point final.
Merci encore une fois et prenez soin de vous et soyez prudents. Merci, Tetiana. Bonne journée.
Merci.
Au revoir. Tetiana Orgakova, qui est actuellement dans l'ouest de l'Ukraine et qui surveille pour nous. On a un contact quotidien avec elle pour sentir un peu ce qui se passe là-bas puis avoir le pouls de ce que vivent les Ukrainiens. Alors, je rappelle donc que les bombardements continuent avec une assez forte intensité. Également, il y a des corridors humanitaires, 6 dit-on, mais un peu à chaque fois, il faut voir si dans les faits, ça se concrétise. Et puisqu'on parle des déplacés, des réfugiés, il y a des enjeux importants. Et plus cette guerre avance, plus l'enjeu de la nourriture, de l'eau, des médicaments devient important. Beaucoup de difficultés d'approvisionner. Et il y a des villes comme ça où les gens disent on en a peut-être encore pour quelques jours. Ils sont cachés dans des abris. Ils ont réussi à se réfugier à certains endroits, mais sans avoir de la nourriture. Et quand vous avez des villes comme ça bombardées, que les infrastructures sont touchées et que l'économie du pays est en culbute, ben c'est clair que pour les gens c'est difficile, puis que l'aide internationale arrive. On a vu des camions de la Croix-Rouge passer, mais ça demeure extrêmement difficile. Puis on voit des gens qui arrivent même en France, la gare de l'Est, les premiers Ukrainiens qui arrivent épuisés de ce long périple. Et on sait que l'Europe a beaucoup ouvert en disant venez, il y a pas de visa, ce qui est pas le cas du Canada encore. Là, on est toujours pris. Puis il y a d'autres exemples qu'on va vous montrer ce matin, de gens qui se font fermer la porte à l'ambassade et à qui on impose des contraintes bureaucratiques importantes. Et puis donc, la ronde de pourparlers qui n'a absolument rien donné. Alors, je vous dirais que c'est pas mal l'essentiel ce matin. Les pressions économiques continuent. Il y a Sony qui s'est ajouté à la liste. Mais c'est clair qu'il y a un autre élément, peut-être en conclusion. Il y a plein de médecins québécois qui est parti, qui devait aller en Ukraine, qui est resté finalement du côté de la frontière en Pologne, et d'autres qui sont consternés. Puis je pense que je vais conclure ce segment-là. On avait des discussions en studio. Nous sommes témoins, nous en Amérique du Nord, d'une guerre en Europe où des gens meurent, où des gens, et les images des déplacements par train, par autobus, à pied, en voiture, rappellent ces images marquantes, horribles de la Deuxième Guerre mondiale. Puis on se dit tous, mais on peut pas rester comme ça, regarder ce qui se passe puis rien faire. Tu dis, ça n'a pas de bon sens. Puis en même temps, ce matin, je parlais avec un général français à la retraite, vous allez l'entendre un peu plus tard dans l'émission, mais qui disait, il est clair que les Alliés ne peuvent aller en confrontation directe avec les Russes. Et c'est pour ça qu'on rejette, du côté américain, l'idée d'imposer cette zone d'interdiction de vol réclamée par l'Ukraine pour que les bombardements cessent, parce que interdire, ça veut dire intervenir aussi. Et c'est carrément une confrontation. Et il y a des gens qui sont prêts à accueillir au Québec des familles ukrainiennes, il y a des gens qui font des dons, il y a un mouvement, mais il y a quelque chose de particulier d'être ici, puis on est dans notre vie quotidienne, puis c'est bien correct, là, mais de voir qu'en Europe se déroule cette guerre, puis qu'on touche un hôpital pour enfants, une maternité. Puis là, tu te dis, mais on va faire quoi avec ces enfants-là? On va les envoyer où? Comment on va prendre soin d'eux dans un contexte de guerre comme celui-là? Très bien, on va regarder les autres nouvelles ce matin. Hier, je vous parlais de la facture alimentaire. Et on va y revenir un peu plus tard avec des restaurateurs parce que vous l'avez remarqué, ça coûte de plus en plus cher. Puis vous êtes nombreux à m'envoyer des courriels en disant, on est allé déjeuner, ça a un prix de fou, on est allé une famille de quatre manger du poulet, puis là, tu te dis, mais voyons, ça n'a pas de bon sens. La facture est plus élevée parce que les coûts pour le restaurant sont plus élevés, puis les taxes, puis ajoutons le pourboire. Alors, c'est sûr que c'est un enjeu important. Mais ce matin, le professeur Sylvain Charlebois, qui est de l'Université Dalhousie, publie une étude qui a été menée avec Angus Reid, la firme de sondage. Et ce que ça montre, c'est que, bon, on le sait, les prix des fruits et des légumes, par exemple, sont de plus en plus élevés, ça coûte plus cher, mais c'est un phénomène différent qui s'appelle duraflation, ce qui veut dire que ce sont des produits donc qui coûtent plus cher, mais qui en même temps durent moins longtemps. Et là, on remarque, bien sûr, surtout dans les fruits et légumes, mais également dans les produits laitiers, même du pain, qui ont été jetés par les consommateurs parce que ce sont des produits des denrées périssables, mais avec une espérance de vie plus courte. Ils arrivent à la maison quand on les achète, ça devrait durer 3, 4, 5 jours, et c'est pas tout à fait le cas. Alors, on remarque donc que ces aliments arrivent moins frais, une durée de vie plus courte, une fois dans le frigo, et c'est nettement moins long que ce qu'on découvre habituellement. Et ça découle des problèmes de chaîne d'approvisionnement à cause de la pandémie, manque de main-d'œuvre. Puis il y a peut-être aussi un enjeu climatique, des produits qui sont plus longtemps exposés au soleil, des produits qui restent dans des camions plus longtemps. Bref, la liste est longue. On va tenter de parler Sylvain Charlebois tantôt. Mais en plus que ça coûte cher, il faut vraiment être à l'épicerie très sélectif, pas seulement sur le prix, mais sur la qualité de ce que vous avez entre les mains puis de ce que vous avez l'intention d'acheter. Dr. Carl Weiss, collaborateur régulier de l'émission, a fait un discours hier devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Puis, il y avait un message quand même assez clair. On va pouvoir enfin respirer. Le pire est passé. Et finalement, c'est le retour à une normalité. Ça sera jamais comme avant la pandémie à 100%. Mais son analyse est intéressante. Parce qu'il dit, et là, il cite un peu, il fait une analogie avec un maître pâtissier qui dit que son gâteau, Omicron, est absolument sublime et que finalement, ça donne plus rien d'amélioré. Donc, c'est comme si le virus, selon le Dr Weiss, avait atteint sa très grande maturité face à une population largement vaccinée, et avec une immunité qui s'est installée. Docteur Boileau de la Santé publique va faire le point de presse ce matin. On sait que samedi, c'est la fin du passeport vaccinal. Puis il y a d'autres mesures, donc pleine capacité pour des événements. Et il dit qu'il est temps maintenant, parce que l'espèce de catastrophe appréhendée par certains dans les hôpitaux ne se produit pas. Ça se passe pas au Québec, puis ça se passe pas non plus dans les autres provinces. Donc, oui, il y a des décès qui préoccupent. Oui, il y a des hospitalisations, mais quand même, c'est limité. Et là, c'est le retour après la relâche pour une partie du Québec. Ça semble pas donner lieu là à une hausse vertigineuse. Puis quand vous regardez ce qui se passe sur le web, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus conservateurs, je sais pas comment les qualifier, là, mais qui sont peut-être plus prudents ou ultra prudents, qui disent que ça va peut-être un peu vite, les assouplissements, parce que la prochaine étape, c'est la disparition du masque obligatoire. Bref, c'est intéressant, mais il y a des gens qui, quand même si le passeport vaccinal tombe, qui ont l'intention de l'exiger. Dans The Gazette ce matin, on parle d'un gym, le propriétaire dit « Moi, j'ai des clients qui sont plus âgés, puis j'ai des clients aussi qui sont immunosupprimés. Et je comprends que c'est pas obligatoire de le faire, mais moi, j'ai l'intention d'exiger le passeport vaccinal. » Ils sont peu nombreux, là, probablement, mais il y en a quand même quelques-uns. Et puis, un mot pour vous dire que Jean Charest fait donc le saut officiellement aujourd'hui. Ça se passe à Calgary. Et nous avons un sondage ce matin dans le Journal de Montréal, qui montre que M. Charest part de loin. Les conservateurs donnent, puis là, faut faire la distinction dans le sondage, entre ce que les Canadiens pensent en général, puis chez les conservateurs. Dans le cas des Canadiens, c'est 15% qui voient M. Poilievre comme chef, 12% pour Jean Charest. Puis il y en a quelques-uns, l'autre, mais c'est plus que marginal. Peter McKay qui revient tout le temps, mais qui avait été battu la dernière fois par Erin O'Toole. Chez les conservateurs, là, M. Poilievre, il est quand même fortement en avance. Il a 41% des appuis contre 10% par M. Charest. Et M. Charest, dans une entrevue à la presse, s'est dit ouvert là sur la question de l'énergie, puis de la guerre actuelle, puis des sources d'approvisionnement, à peut-être construire de nouveaux pipelines. Donc, la bataille chez les conservateurs, vous avez M. Charest, qui se veut peut-être plus de centre, une droite plus traditionnelle, face à un M. Poilievre qui est plus radical. Quoique, quand vous regardez son discours depuis quelque temps, c'est comme si c'était un peu apaisé. Et être parti sur des attaques très dures, puis c'est un gars qui est un batailleur, là, il change un peu de ton pour se montrer un peu plus rassembleur. Ça va être une course intéressante, alors ça va être officiellement donc l'entrée en course de Jean Charest. On va reparler avec Jonathan tantôt.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Le ministre Roberge va annoncer donc que cette année, il y aura finalement un bal pour les finissants et que le directeur par intérim de la santé publique probablement va annoncer aussi un certain nombre d'assouplissements. Je rappelle que samedi, le passeport vaccinal disparaît. Et hier, notre collaborateur régulier, le docteur Carl Weiss, a fait une conférence devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour un peu faire le bilan de cette pandémie et nous dire où on était rendu. Et le message était assez positif. On a eu l'occasion, vous le savez, d'échanger souvent avec lui, puis de dire que le pire était probablement passé, puis qu'il fallait se mettre dans un mode de retour vers une certaine normalité. Il est avec nous ce matin. Dr Weiss, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Quand vous regardez les indicateurs, comme on les appelle, disons que les pires scénarios se sont pas produits, puis au contraire, la société, même avec le retour des fêtes, puis là, c'est l'après-relâche scolaire, même s'il y a toujours des cas, ça semble bien se passer.
Tout à fait. On n'a pas du tout un scénario catastrophique. Une des raisons, évidemment, c'est parce que tellement de Québécois ont fait la COVID pendant la période des fêtes. associé au fait qu'un très grand nombre de gens avaient déjà été vaccinés. Et donc, ceux qui ont été malades, si vous voulez, ont été pas très malades pour beaucoup. Bien sûr, malheureusement, on a eu quand même 3500 hospitalisations. On a atteint le pic des hospitalisations au mois de janvier par le simple fait qu'un des gens n'avaient pas été vaccinés, la troisième dose n'avait pas été donnée à temps, il y a eu plusieurs facteurs. Mais une fois qu'on a dit ça, à l'étape actuelle où on se retrouve au début du mois de mars, on se retrouve dans une situation où la société s'est beaucoup plus ouverte qu'elle n'était il y a quelques semaines, et on n'a pas une augmentation catastrophique des cas, au contraire, on n'a pas d'augmentation des cas, on revient à des activités beaucoup plus normales au niveau du système hospitalier, et donc c'est une preuve que l'immunité que je dirais, on en pourra en discuter, l'immunité collective dont on devrait plus vraiment parler, mais cette immunité de la population québécoise fait que le virus n'a plus le même impact qu'il avait au début de la pandémie, et on n'est pas les seuls à le prouver, puisque dans les autres provinces canadiennes et dans d'autres pays qui ressemblent, je dirais, à notre système de santé, où les gens ont été beaucoup moins entre guillemets coercitifs dans leur approche, on observe également les mêmes tendances actuellement.
En quoi, parce que vous l'avez dit hier, que le variant Omicron a été un point tournant?
Ben, le variant Omicron, il avait, je vous dirais, une chose très particulière, c'est qu'il était extrêmement contagieux, il s'est propagé vraiment comme une traînée de poudre, donc c'est la première chose. C'est un variant donc qui a affecté une très grande partie de la population en très peu de temps. En faisant cela, il a comme, entre guillemets, conféré une certaine protection à la population, en plus de la vaccination. Donc beaucoup de gens, beaucoup de Québécois qui avaient eu déjà deux doses de vaccin, ou même trois, qui se sont retrouvés avec le variant Omicron. Je parle de la population générale, je ne parle pas évidemment des gens qui sont plus à risque, mais dans l'immense majorité des cas, ces gens-là se sont retrouvés avec une protection qui était très augmentée. Et donc maintenant, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on a tous, beaucoup d'entre nous au Québec, rencontré le virus, que ce soit par le vaccin et la maladie, ou que ce soit par le vaccin trois fois, ou que ce soit par la combinaison des deux. Donc, on n'est plus une population complètement vierge pour le virus de la COVID, et par conséquent, la probabilité qu'on ait une maladie sévère, je parle de l'ensemble de la population, diminue beaucoup. Alors, c'est comme, vous savez, c'est pour ça que lorsque la COVID est arrivée, malheureusement, beaucoup de personnes âgées sont décédées parce que leur système immunitaire qui était moins bon, a rencontré la COVID pour la première fois, et donc ces gens-là avaient une moins bonne capacité d'adaptation et de se défendre contre le virus. Maintenant que tout le monde, une très grande partie, a rencontré le virus d'une façon ou d'une autre, oui, on va être possiblement infecté par la COVID, on va, comme beaucoup de gens, vous avez pu le constater, ont développé un rhume, à la limite, ils ont fait une petite grippe, mais la maladie sévère qu'on voyait dès le début, on ne la voit plus, et même on l'a vu au niveau des hospitalisations. Vous savez que 40% à peu près des hospitalisations de la COVID au Québec n'avaient pas la COVID comme diagnostic principal, c'est-à-dire c'était des femmes qui venaient par exemple accoucher, qu'on trouvait COVID positive, c'était des patients en psychiatrie qui étaient là pour des conditions psychiatriques qu'on dépistait, c'était des gens qui venaient pour des conditions chirurgicales aiguës qu'on devait opérer, donc une appendicectomie ou une fracture ou quelque chose comme ça, et on trouvait la COVID. Donc ça montre que ces gens-là n'étaient pas malades principalement dû à la COVID.
Il y a un autre élément sur lequel vous insistez beaucoup, appelons ça tirer des leçons de ce qu'on a vécu, c'est de faire en sorte que le réseau de la santé, qu'on a toujours, avec raison, voulu protéger en raison, évidemment, de sa fragilité, ben il va falloir qu'on ait plus de lits, qu'on soit moins vulnérable, qu'on soit plus prêt pour faire face à des situations du genre.
Oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, il y a un gros document qui vient de sortir aux États-Unis, extrêmement complet, extrêmement bien fait à ce sujet-là. Alors l'objectif, il est quoi? Premièrement, il est de protéger le système de santé. Hein. N'oublions pas que tout ce qu'on a fait, le confinement, etc., c'est parce qu'on avait peur qu'on ait trop de cas qui débordent au niveau hospitalier et qu'on soit obligé de commencer à trier les gens. Donc on veut protéger notre système de santé. La première chose à faire, c'est d'avoir, je pense, des centres intégrés de traitement de la COVID. Donc, vous savez, aux États-Unis, ils ont une approche extrêmement efficace qui s'appelle « test and treat », c'est-à-dire que vous arrivez, on vous teste, si vous êtes positif, on vous donne un traitement, et on sait que les traitements aujourd'hui réduisent de plus de 80% le risque d'hospitalisation, surtout pour les gens, je vous dirais, plus à risque. Et donc, si vous êtes capable de cibler les populations à risque, vous les testez rapidement, vous les traitez rapidement, vous allez diminuer de façon importante le risque d'hospitalisation et donc le débordement du système de santé. Donc ça, c'est une chose qu'il va falloir, à mon sens, intégrer dans notre vie de tous les jours, dans le futur, et assez rapidement pour éviter ce qu'on vit actuellement, par exemple, avec l'administration d'un médicament qu'on appelle le Paxlovid, qui est très lourd, où la structure est très difficile, où c'est pas vraiment encore idéal, et j'ai vu la différence en allant aux États-Unis. La deuxième chose, c'est que, oui, on a, avec nos réformes successives, diminué le nombre de lits actifs. Écoutez, moi, je l'ai vu quand j'ai commencé à être étudiant en médecine, c'était peut-être l'autre extrême, et aujourd'hui, le nombre de lits par 1000 habitants au Québec et au Canada, et c'est un des plus faibles des pays du G7 et un des plus faibles, je vous dirais, du monde développé. Donc, on n'a pas beaucoup de lits par capita comparé à d'autres endroits sur la planète, et ça nous met toujours dans une situation difficile, hein, vous voyez les urgences qui débordent, etc. Et c'est ce qui a, entre autres, un peu contribué au fait qu'on était très anxieux avec la gestion de la COVID, parce qu'on se disait, bon, on va déborder, on sera plus capable de traiter les gens. Donc, il y a cet aspect-là du nombre de lits. C'est sûr que les lits et de soins aigus, ça coûte cher, c'est des lits qui sont difficiles à gérer sur certains aspects, mais à un moment donné, le virage ambulatoire, ça a certainement des bénéfices, mais il y a probablement une limite où on peut aller. Alors là, il y a aussi ce qu'on appelle l'hôpital virtuel. Vous savez que même dans mon hôpital, on a un projet à ce sujet-là. C'est quelque chose qui commence à émerger un peu partout en Occident, c'est-à-dire d'avoir des, entre guillemets, des hôpitaux de soins aigus parallèlement aux hôpitaux de soins aigus, mais à la maison, si vous voulez, c'est-à-dire que les gens, dans certaines conditions où ils sont stables, on peut les suivre à la maison, mais il y a toute une façon de revoir cet aspect-là, et certainement que le nombre de lits devra être revu, à mon sens, à la hausse, parce qu'on est toujours en train, si vous voulez, de courir après des lits continuellement, de donner les congés très vite, etc. Et le nombre de lits, c'est mathématique, il est plus bas au Québec qu'il n'est partout ailleurs ou quasiment en Occident.
On a vu les juridictions, les États utiliser des armes différentes, un coffre à outils là, de mesures. On prétend que le Québec là, a été peut-être le plus sévère avec du confinement, des couvre-feux, plus longues périodes de temps. C'est facile à dire peut-être avec le recul, mais avez-vous l'impression qu'on a été trop sévère au Québec, qu'on a privé de liberté trop longtemps les gens?
Oh, ça, c'est une question qui est difficile à répondre. Certainement pas durant les premières vagues, parce que durant les premières vagues, il y avait beaucoup d'inconnus. On avait une maladie nouvelle dont on connaissait pas tous les aboutissants, etc. C'est sûr que durant la cinquième vague, il y a des décisions, puis c'est clair, qui ont été prises et dont on peut se poser l'impact. On a vu, par exemple, le couvre-feu qui a été finalement abandonné très vite parce que tout le monde a vu que ça n'avait pas vraiment un impact. Et c'est un petit peu dommage, ce genre de décision-là, parce que ce que ça a fait, c'est que ça a rendu la gestion de la COVID très confuse au niveau de la population. Moi, je le voyais, il y avait une espèce de découragement, et alors que les gens adhéraient beaucoup aux mesures. Hein. Les Québécois ont été extrêmement disciplinés, faut le souligner, on l'oublie souvent. Au-delà de tout ça, la cohésion de la société, c'est quand même extrêmement bien faite, puis je pense que si il y a des historiens ou des gens qui regarderont ça dans un siècle, en se disant quel a été l'exemple à tirer de cette crise, je pense que ça a été la cohésion de la société qui, dans son immense majorité, a été très disciplinée et a suivi les mesures. Mais il est clair que, avec le recul aujourd'hui, c'est toujours plus facile, mais avec le recul, Il faut maintenant tirer des conclusions et gérer, on va dire, la COVID dans le futur de façon différente de la façon dont on l'a géré dans le passé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut rendre beaucoup plus de flexibilité aux hôpitaux. On avait une gestion qui était très top-down au niveau du ministère de la Santé, qui est un modèle dépassé quand on voit ce qui se passe ailleurs sur la planète. Et surtout, je pense qu'il faut aussi avoir un système d'alerte précoce beaucoup plus robuste. C'est ce qui est d'ailleurs recommandé dans les comités qui se sont penchés sur l'après-Covid, par exemple aux États-Unis, en France ou en Grande-Bretagne. Et pour que justement, si on a une Covid-38 ou si on a quelque chose de ce style-là, on ne retourne plus à une société québécoise où on est obligé de fermer la société comme on l'a fait dans le passé, ce qui était très correct au début parce qu'il y avait, je vous dirais, beaucoup d'inconnus, mais maintenant on peut plus se permettre pour la COVID 6.0 de retourner à ce genre de gestion-là.
Merci beaucoup, Dr Weiss. Bonne journée.
Vous aussi.
Merci, au revoir. Dr Carl Weiss. Alors, cette espèce de conclusion, il y aura toujours des cas, puis probablement qu'à l'automne, on va se retrouver avec... c'est un certain nombre de cas, mais au moins, sa conclusion, puis je ferai remarquer ce qu'il nous a répété à plusieurs reprises depuis le début de l'année, mi-mars, fin mars, ça va être le retour vraiment à une certaine normalité. Des ajustements, être prudent, vigilant.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Maintenant, c'est posé la question, bombarder un hôpital, puis c'est pas le premier là depuis le début de cette guerre, est-ce que c'est un accident ou est-ce que c'est un geste intentionnel? J'ai parlé plus tôt ce matin avec le général Jean-Paul Paloméros, chef d'état-major de l'armée de l'air française 2009 à 2012 et commandant de l'OTAN, de 2012 à 2015, et je lui ai posé la question. On sait que les Russes ont dit on croyait qu'il y avait des gens d'extrême droite cachés dans cette maternité, d'autres ont parlé d'une étude qu'il fallait faire, une enquête. Évidemment, l'Ukraine dit que c'est un geste horrible, volontaire. Donc, selon le général Paloméros, qu'est-ce qui s'est passé? C'était voulu ou c'est un accident?
Je suis assez partagé. Je dirais que ça fait partie de la campagne du siège, en quelque sorte, de Mariupol. J'ai pas le sentiment que ça soit intentionnel sur cet hôpital, mais ça fait partie de l'emploi maximum de la violence pour détruire cette ville. Donc il y a forcément des frappes qui atteignent des objectifs de cette nature. Ça aurait pu être plus grave d'ailleurs.
Il y a une intention donc de frapper des cibles qui sont importantes, des cibles hospitalières, civiles, dans des quartiers, et pas strictement donc livrer des opérations militaires là qui visent des cibles militaires.
Ben ça, c'est très clair. Hein. C'est indiscriminé. C'est des frappes massives pour terroriser la population et pour détruire pratiquement, pour raser cette ville. Mariupol, on peut la qualifier de ville martyr aujourd'hui.
Maintenant, général, dites-moi, comment vous évaluez la stratégie russe? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les Russes rencontrent des obstacles importants? Comment vous évaluez ce qu'ils font sur le terrain?
Ben, je crois qu'il y a, au moins deux temps. Il y a eu un premier temps où je pense vraiment que Vladimir Poutine pensait pouvoir agir très vite et obtenir des succès très vite, y compris en renversant la population, voire l'armée ukrainienne contre le pouvoir. Et il a clairement sous-estimé la volonté et la capacité de résistance du peuple ukrainien, de son chef, Vladimir Zelensky. Il a tout simplement sous-estimé la force, je dirais, de la liberté et de la démocratie.
Maintenant, quelle est l'étape la plus importante pour l'armée russe, c'est-à-dire encore bombarder ou vraiment débarquer dans les villes et faire face à une résistance et donc à une guérilla urbaine?
Alors, donc là, on est dans la deuxième phase qu'il a bien été obligé de mettre en œuvre, ce qui est une phase sans doute plus violente et qui entraîne un certain nombre de questions sur la volonté finale, en quelque sorte, de Vladimir Poutine. Il y a très clairement, à ma compréhension, un axe au sud de l'Ukraine qui vise à couper l'Ukraine, finalement, de ses accès maritimes et à poursuivre l'action qui avait été conduite en 2014 dans le Donbass, en Crimée, donc prendre vraiment des zones d'intérêt majeur, d'intérêt stratégique, je dirais, avec l'accès sur la mer Noire, on l'a vu. Est-ce que ça va, bon, Mariupol en fait partie, bien sûr, est-ce que ça va se poursuivre jusqu'à Odessa? Ça, c'est une question, la pression monte, ça va dépendre sans doute de l'évolution des accords ou de l'évolution de la guerre. Dans le Nord, je crois que la pression, c'était vraiment pour contre le pouvoir. C'était vraiment pour déstabiliser le pouvoir. Et là, ça ne marche pas. Donc, évidemment, il n'y a pas 50 solutions. S'ils veulent vraiment atteindre les buts de guerre, là, il va falloir qu'ils emploient, ce que je disais tout à l'heure, encore plus de violence et qu'ils s'en prennent vraiment à la capitale Kiev. Et là, ça va être difficile, long, douloureux. Et la dernière question, c'est... En admettant que Vladimir Poutine atteigne ses objectifs, comment va-t-il tenir cette Ukraine? Comment peut-il, là on rentre dans le long terme, comment va-t-il occuper l'Ukraine? La population n'est pas prête à se soumettre. Bon, il y a une partie de la population qui est en exil, mais je crois que l'Ukraine a goûté à la démocratie, à la liberté, et ça... Poutine ne va pas l'extirper, en quelque sorte, des entrailles de l'Ukraine.
Le président Zelensky réclame depuis plusieurs jours que les alliés, que les forces de l'OTAN, donc, interviennent, surtout en implantant une zone d'interdiction de vol au-dessus de l'Ukraine. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là? Est-ce que c'est faisable?
Faisable, techniquement, bien sûr, on l'a fait à de nombreuses reprises, mais là, la situation est très différente de ce qu'on a fait, par exemple, au-dessus des Balkans, quand il y a eu la guerre en Bosnie, bon, au Kosovo, ou alors au Moyen-Orient, au nord de l'Irak, après la guerre en Irak. Là, il s'agit tout simplement de s'opposer à l'aviation russe, donc de rentrer en guerre, d'être belligérant, on dit co-belligérant, c'est-à-dire de vraiment faire la guerre à la Russie pour empêcher l'aviation russe d'intervenir en Ukraine. Et c'est pour ça que les alliés de l'OTAN ne veulent pas rentrer dans cette escalade, puisqu'on ne sait pas où elle nous conduirait.
Donc, ça veut dire aux Ukrainiens, nous allons vous donner des armes, nous allons vous donner de l'argent, nous allons vous donner du support, mais hors de question d'entrer dans un face-à-face avec la Russie.
Oui, mais oui, bien sûr, ça, le président Zelensky l'a répété hier, il le comprend, hein. Il le sait. Il sait que les alliés ne peuvent pas rentrer de manière frontale contre la Russie parce qu'on a affaire à des puissances nucléaires.
Voilà, c'était le général Jean-Paul Paloméros, qui, entre autres, a été commandant suprême des forces de l'OTAN de 2012 à 2015.
L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
On va aller maintenant aborder un autre sujet que j'ai pas mal commencé à fouiller hier, puis beaucoup d'auditeurs m'ont écrit. C'est évidemment le prix, la facture au restaurant. Depuis le retour, donc, après cette autre fermeture, les gens disent, ben on est allé déjeuner, ça nous a coûté tant. Hein, on est allé souper, puis restaurant familial pour deux adultes, deux enfants. Puis des factures, tu dis à ta peu, là, ça coûte 125, 130, puis on n'a pas abusé, mais... ça coûte plus cher. Avec nous, Éric Lefebvre, qui est le chef de la direction du groupe alimentaire MTY. C'est 80 bannières, là. Il y a 7000 emplacements, puis des marques que vous connaissez, là. Madison, Saint-Paul, Valentine, Allô, mon coco. Et on essaie de comprendre, d'abord, si la perception est juste, puis on l'explique comment. Monsieur Lefebvre, bonjour.
Oui, bon matin, Monsieur Arcand.
D'abord, est-ce que depuis le retour, là, après le confinement, là, en raison, je sais pas moi, du coût des matières premières, du personnel, ça coûte plus cher manger au resto?
Oui, effectivement, on a eu des hausses de prix importantes, tant au niveau de coût de main-d'œuvre que de coût de toutes les denrées qu'on qu'on utilise dans nos restaurants. Donc, oui, effectivement, il y a eu des hausses de prix assez généralisées dans l'industrie.
OK. Quand vous me dites des hausses de prix, là, vous me parlez de combien?
Ouais, ça dépend d'une bannière à l'autre, ça dépend des items qu'on vend. Par exemple, si on regarde au niveau là, de tout ce qui est les protéines et tout ça, bon, on a eu des hausses plus importantes. Puis il y a d'autres produits où ça a été un peu moins important, mais je dirais que la hausse est quand même assez généralisée. Puis il n'y a pas nécessairement de grande embellie en vue non plus, là, malheureusement.
OK. Quand vous dites il n'y a pas de d'embellie, ça veut dire que vous attendez à payer peut-être même encore plus cher?
Oui, ben c'est sûr que tout ce qui se passe présentement en Ukraine, ça va avoir un impact. La hausse du prix des carburants. Tu sais, quand on regarde nos fournisseurs qui nous amènent les produits, ils ont des problèmes de main-d'œuvre aussi, ils doivent payer plus cher pour ça. Tous les emballages présentement, c'est très difficile. Trouver des cartons et compagnie, c'est très difficile. Au niveau du transport, les prix ont augmenté énormément. Donc, oui, il risque d'avoir des hausses encore qui s'en viennent dans les prochaines semaines.
Il y a une étude qui sort ce matin avec professeur Charles Lebois de l'Université Dalhousie qui parle d'un phénomène qui fait en sorte que les produits qui arrivent sont peut-être plus chers, mais aussi moins frais, avec une espérance de vie, là, qu'on veut, dans les frigos qui est moins longue. Vrai pour les fruits et légumes, vrai pour les produits laitiers. Est-ce que vous sentez ce phénomène-là, vous?
Peut-être un peu moins dans les restaurants. On a des livraisons qui sont quand même à des fréquences assez élevées. Donc, dans les restaurants, on le sent peut-être un petit peu moins. Là.
OK. Alors, qu'est-ce que vous dites à un client qui dit « Hey, j'aime ça aller chez Allô mon coco, là, mais ça commence à coûter cher, puis j'y allais tous les samedis, je vais y aller une fois ou deux semaines. C'est rendu trop cher pour un déjeuner. »
Ben, la première chose qu'on leur dit, c'est « Merci de venir dans nos restaurants. » Ensuite, ben c'est sûr que oui, on a des hausses de prix qui sont importantes. On essaie de diriger nos clients autant que possible vers des offres promotionnelles ou des offres peut-être vers des produits qui risquent d'augmenter un petit peu moins. Mais oui, il y a des produits de base. On regarde le bacon, par exemple, qui est un produit qu'on prend pour acquis. Les hausses de prix sont vraiment importantes. Juste depuis le début du mois de mars, depuis 10 jours, on a des hausses qui est de l'ordre de 15% pour le prix du bacon. Donc, c'est des hausses qu'on peut pas éviter, malheureusement.
Bon, c'est sûr que quand les restos ont fermé, là, malgré le service prêt à emporter, les gens avaient hâte de retourner, puis il y avait moins d'espace au début, puis là, en fin de semaine, le passeport vaccinal va tomber. Est-ce que vous craignez que les gens, j'allais dire, n'aient plus le budget nécessaire pour aller au restaurant avec la même fréquence, y aller aussi souvent?
Oui, c'est toujours quelque chose qu'on regarde, mais pour le moment, là, ce qu'on voit, c'est que nos clients sont prêts à payer. C'est certain que chaque fois qu'on augmente nos prix, on a des attentes qui sont plus élevées aussi. On doit offrir une expérience qui est supérieure. Donc, ça doit être cohérent. Puis si on augmente nos prix, on comprend que nos clients ont des attentes qui sont plus élevées. Puis c'est tout le temps une question de valeur. Puis la valeur, ben ça peut être variable selon le niveau d'expérience puis le niveau de prix.
Fait que c'est sûr que la facture baissera pas dans les prochaines semaines, prochains mois, parce que vous parlez du bacon, mais ça c'est un exemple. Puis le personnel qui coûte plus cher. Avez-vous encore des problèmes de recrutement?
Oui, les problèmes de recrutement sont importants. C'est pas tant le coût de la main-d'œuvre qui est un problème que de la disponibilité. Toutes les industries présentement se compétitionnent pour essayer d'attirer la main-d'œuvre. Donc, en restauration, avec les ouvertures, fermetures qu'on a vécues, ça a rendu l'industrie un petit peu moins attrayante parce que c'était très instable. Donc, c'est pour le moment, là, nous, c'est d'essayer de rendre l'industrie attrayante à nouveau puis de ramener les employés qu'on avait dans nos restaurants, de les ramener vers nos restaurants puis de leur montrer qu'on peut être une bonne industrie puis un bon employeur encore.
OK, merci M. Lefebvre. Bonne journée. Éric Lefebvre, qui est le chef de la direction du groupe alimentaire MTY REC. Alors, c'est 80 bannières. Donc, on voit les frais, les coûts, c'est-à-dire qui sont plus élevés. Mais c'est sûr que je regarde vos courriels, là, puis tu dis, OK, est-ce que j'ai encore les moyens d'aller aussi souvent? Ça veut pas dire que les gens vont arrêter d'y aller, mais... Puis, on peut pas blâmer, qu'est-ce que tu veux? Il y a les coûts, il faut bien les assumer en quelque part. Mais c'est sûr que quand tu ajoutes les taxes, puis quand tu ajoutes le pourboire, ben ça devient une somme assez élevée.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.